Je vais vous partager ma rencontre avec lui, qui j'étais, comment cette rencontre a eu lieu et qu'est-ce que ça doit changer dans ma vie. Mais je voudrais commencer mon histoire en 1980. En 1980, je me retrouvais à Toronto pour un voyage d'affaires. J'étais homme d'affaires, j'avais une société de marketing et de mise en marché de produits. Et j'avais trouvé un produit dont je voulais obtenir l'exclusivité pour la province de Québec. Et donc, j'ai trouvé le manufacturier qui se trouvait à Toronto et j'ai pris rendez-vous avec. Et là, à ma grande surprise, j'ai découvert un homme d'affaires différent de tous les autres hommes d'affaires que j'avais côtoyés dans ma vie. De cet homme émanait une paix que moi, j'avais pas. Et deuxièmement, les deux jours qu'ont duré nos négociations pour que je puisse obtenir l'exclusivité de son produit, pendant toutes nos négociations, cet homme semblait avoir mes intérêts à cœur. Et là, j'ai dit, il doit avoir anguille sous roche, hein? C'est pas normal qu'il ait mes intérêts à cœur, parce que le monde des affaires que je connaissais était un monde d'affaires où c'était au plus fort la poche, et comment je peux prendre de toi, puis comment je peux prendre de l'autre, et non pas comment je peux te donner ou comment ça peut te rapporter. C'était pas du tout ça que j'étais habitué. Et j'ai compris pourquoi lui était différent à la fin de ma rencontre, parce qu'après ces deux jours de négociation-là, cet homme a accepté de me donner l'exclusivité de son produit pour la province de Québec et m'a proposé une entente qui était vraiment équitable, autant pour lui que pour moi. Et après avoir signé les documents qui faisaient de moi, son distributeur exclusif pour le Québec, il est venu me reconduire à l'aéroport. Et là, avant de me quitter, cet homme a eu l'audace de me regarder droit dans les yeux en me tenant la main, puis de me dire, Michel, quand t'en auras assez de mener ta vie tout seul, donne-la au Seigneur Jésus-Christ. Je l'ai remercié poliment. J'étais pas habitué à ce que des hommes d'affaires me parlent de Jésus-Christ, parce que ça, c'est la job des prêtres, des pasteurs, des ministres du culte, pas des hommes d'affaires. Moi, j'étais habitué avec les hommes d'affaires avec qui je transigeais, que quand tu signais une entente, ils t'emmenaient aux danseuses nues. Il me parlait pas de Jésus. C'était pas tout à fait la même catégorie. Donc, je l'ai remercié poliment et j'ai pris mon avion. Mais dans l'avion, cette phrase-là m'a percuté. C'était comme s'il y avait une obsession sur ma pensée, Jésus-Christ. J'avais rien raconté de ma vie à cet homme-là. J'avais mis mon plus beau complet avec mes bijoux pour paraître prospère, pour mériter sa confiance puis obtenir le produit que je voulais. J'ai rien raconté de ma vie. Mais avant de partir pour le rencontrer à Toronto, le huissier venait de venir me porter un document qui me signifiait que mon épouse demandait le divorce. Quelques mois auparavant, j'avais fait un dépôt de bilan. J'avais fait faillite. Et en plus de ça, j'étais lié par une dépendance quotidienne à la cocaïne. Mais j'ai rien raconté de ça. Mais lui a dû voir derrière mon masque et il a prononcé un nom qui m'a amené à retourner en arrière, à faire un bilan de ma vie. Vous savez, le nom de Jésus-Christ n'est pas un nom comme les autres. Il m'a pas dit, Michel, quand tu en auras assez de mener ta vie tout seul, donne-la à Dieu. Dieu aujourd'hui, Dieu. Dieu, ça change rien, Dieu. Ça change pas le monde, Dieu. Va-t'en dans la rue, demande aux gens, croyez-vous en Dieu? Oh oui, Dieu cosmique, Dieu ésotérique, Dieu maître de l'univers, Dieu tel que je le conçois, je suis Dieu. Il y a des gens qui pensent qu'ils sont des dieux. Dans le Nouvel Âge, c'est ce qui est véhiculé. Non. Il dit, quand t'en auras assez de mener ta vie tout seul, donne-la au Seigneur Jésus-Christ. Dieu, tu peux t'en faire l'image que tu veux, mais Jésus-Christ, ça rétrécit l'image que tu peux te faire. Je me rappelais de Jésus. Ça m'a ramené à mon enfance. Je suis 8e d'une famille d'11 enfants. Mon père était conducteur de train, puis à l'époque, c'était pas des TGV, c'était des trains vapeur. Et papa partait de la maison pendant 5-6 jours d'affilée. Moi, j'ai été élevé avec un père absent. Mais quand mon père revenait à la maison, après ces 5-6 jours d'absence, ma mère l'attendait avec une liste de tous les mauvais coups qu'on avait faits. Et lui, pour nous inculquer une certaine discipline, avait trouvé une lanière de cuir dont les coiffeurs se servaient pour aiguiser leur rasoir, et il s'en servait pour nous aiguiser le caractère à nous. Quand mon père revenait de voyage, j'avais l'impression que le plafond descendait de 3 mètres. On se sauvait partout comme des souris, parce qu'on savait ce qui nous attendait. On savait que ma mère, de façon un peu hystérique, parce qu'elle avait ras-le-bol avec les 11 enfants dont j'étais le plus sage. Je sais pas pourquoi à chaque fois je dis ça, les gens rigolent. Je vous le dis que c'était moi le plus sage. Vous connaissez pas les 10 autres, hein? Bon. Mais on savait ce qui était pour se passer. Quand papa revenait à la maison, il faisait la tournée des chambres, puis moi j'avais la dernière chambre au fond. Ça, c'est un supplice. T'entends les cris, là. T'entends les coups de strap, là. Puis là, tu sais que ton tour s'approche. Là, t'entends fermer une porte, t'entends une autre porte ouvrir, puis là, t'entends d'autres cris. Ça, ça fait plus mal que les coups de strap, hein. Et ça l'a mis quoi dans mon cœur? Ben, j'avais peur de mon père, et j'étais heureux quand mon père partait de la maison. J'étais convaincu que mon père m'aimait pas. Et il s'est produit un événement, et je vous partage ça parce que vous allez voir que souvent de fois, on est marqué par des événements dans notre enfance qui nous suivent toute une vie. Je me rappelle d'un événement où là, j'ai été convaincu que mon père m'aimait pas. C'est que j'avais un ami, moi, qui s'appelait Titi. C'était pas son vrai nom, c'était Yves, mais on l'appelait Titi. Hein? On a des surnoms comme ça des fois. Et un jour, je me retrouvais chez lui alors que son père revenait du travail. Et quand son père est revenu du travail, j'avais peut-être 7-8 ans à l'époque, son père a embrassé Titi. Et moi, ça m'a fait une équation dans ma tête. Lui, il aime son fils. Si mon père m'aimait, il m'embrasserait. Mon père m'embrasse pas, donc, égal, il ne m'aime pas. Et il aura fallu jusqu'à l'âge de 40 ans que je fasse une démarche de pardon auprès de mon père pour comprendre que mon père m'aimait, mais il pouvait pas me donner ce qu'il avait pas, comme nous l'a expliqué David. Mais toute ma vie, j'étais convaincu que mon père m'aimait pas. Parce que si mon père m'aimait, il m'aurait embrassé. Mon père m'embrassait pas, mais il était bon pour donner la fessée. Hein? Donc, dans la vie, j'ai la peur de mon père. Ensuite de ça, j'ai été élevé dans la religion traditionnelle au Québec, ou la façon dont j'ai perçu Dieu, et j'avais des parents, moi, pratiquants, et le Dieu que j'ai connu dans mon enfance, c'était un père fouettard. C'était un Dieu qui surveillait tous tes faits et gestes, puis à chaque fois que tu faisais de quoi de travail, boing, il punissait. J'ai grandi avec le spectre de l'enfer. On m'a menacé toute mon enfance que j'irais en enfer. Si tu fais ci, puis si tu fais ça, puis tu meurs, tu vas aller en enfer. Puis moi, je passais ma vie à faire ceci, puis à faire cela, fait que je m'en allais en enfer, là, moi, là. Un jour, je me rappelle d'une situation où on courait dans la maison, vous savez, comme des jeunes peuvent courir dans la maison, puis en tournant le coin, j'ai glissé, et je me suis frappé la tempe sur le coin d'un meuble. Hey, ça fait mal. Et là, qu'est-ce que j'ai entendu ma mère dire? Ben bon pour toi, le bon Dieu t'a puni. Ah, j'ai dit, t'es un fou, celui en haut. As-tu vu ce qu'il vient de me faire? Puis en plus de ça, il y avait l'audace de dire, le bon Dieu t'a puni. Mais moi, j'ai dit, un bon Dieu comme ça, là, j'en veux pas. Alors, à l'âge de 14 ans, j'ai pris un petit carton appelé religion traditionnelle dans laquelle j'ai grandi. J'ai mis Dieu dedans. J'ai fermé le carton puis je l'ai mis dans le fond du placard. Puis j'ai dit, dérange-moi plus. Appelle-moi plus. Si un jour j'ai besoin de toi, moi je t'appellerai. Quelle arrogance. Mais pour moi, le Dieu dont la façon dont j'ai connu Dieu dans la religion traditionnelle, j'en voulais pas de ce Dieu-là. Et je l'ai mis de côté. Et là, j'ai dit, maintenant, je vais vivre ma vie à ma façon. Vous comprenez pourquoi l'homme d'affaires m'a dit cette phrase-là? Dieu, qui entend tout, qui savait tout de moi, savait ce que j'avais déterminé à l'âge de 14 ans, que maintenant j'étais pour vivre ma vie à ma façon. Et j'ai commencé à vivre ma vie à ma façon. Et en quête d'amour, parce que je ne me sentant pas aimé de mon père, et surtout pas de Dieu, ben, tu deviens une proie facile pour des mauvais compagnons qui corrompent les bonnes mœurs. Et qui t'amène à des choses. Et donc, j'ai commencé très tôt à fumer la marijuana. J'ai fumé mon premier joint à l'âge de 14 ans. Mais vous savez, la première fois que j'ai fumé un joint, c'était pas marqué sur le joint à quoi ça pouvait m'amener. Le problème était pas le joint, était mon besoin d'affection, mon besoin d'être reconnu, d'être aimé. Et donc, ça m'a amené à toutes sortes de situations qui, par la suite, sont devenues des dépendances dans ma vie. Quand j'ai rencontré cet homme d'affaires en 1980, j'étais plus au joint. Le joint, ça, c'était l'apéro. J'avais la cocaïne. Parce que, dans les années 70, je me suis retrouvé à fin des années 60 et début des années 70, je me suis retrouvé en Floride. Je suis allé travailler là-bas, sur la construction. Et il s'est produit quelque chose là-bas, c'est que, dans ces années fin 60, début 70, c'était les années du peace and love. Vous avez connu ça, les hippies, hein? À l'époque, nous, on avait tous les cheveux longs par en bas, la démarche, cool man. Il y avait tout ce langage qu'on avait des blasés qu'on était gelés continuellement sur le pot. Aujourd'hui, ils ont les cheveux toutes sortes de couleurs, c'est raide par en l'air, ils sont percés partout. Ils font le rave. Ça a changé un peu, hein. Mais les problèmes sont les mêmes. Les problèmes sont les mêmes. Notre quête d'identité, besoin d'être reconnu, besoin d'être apprécié, besoin d'être aimé, nous amène à toutes sortes d'expériences dans lesquelles on peut devenir complètement dépendant. Et moi, à l'âge, quand j'ai connu en Floride la LSD, la mescaline, toutes ces choses-là, je suis devenu accro des drogues hallucinogènes. Et à la fin des années 70, j'étais revenu au Québec et j'avais fondé une société, une entreprise en hydraulique. Et pour mon malheur, j'ai réussi. Tu vas dire, attends une minute, il n'y a pas un malheur à réussir en affaires. Mon père me disait toujours, un fou et son argent sont vite séparés l'un de l'autre. Plus que je faisais de l'argent, plus que je me payais des grandes folies. Et une de ces grandes folies-là a été la cocaïne. Et la première fois que j'ai sniffé une ligne de cocaïne, pour moi, ça a été le début de ma descente aux enfers. Je me suis retrouvé en 80 à Toronto, dépendant quotidiennement de la cocaïne. C'est pas drôle quand t'es marié, t'as des enfants, t'as des responsabilités, t'es un homme d'affaires, puis ta vie est reliée à une petite ligne blanche qu'il te faut que tu te mettes dans le nez chaque jour. Moi, je sais c'est quoi de regarder les gens, de voir le regard de ta femme, de tes enfants, de ta famille, alors que tu leur promets que tu vas changer, puis que tu changes pas. Je sais c'est quoi de voir la déception dans le visage des gens qui m'entourent, parce que je veux changer, mais je suis pas capable de changer. Je veux arrêter de consommer de la cocaïne, mais je parviens pas à me libérer. Et je descends toujours de plus en plus creux, au point de faire faillite, au point de me retrouver en instance de divorce. Et on vivait séparés avant ce départ pour Toronto. Moi, je demeurais à Montréal, mon épouse était à Québec avec nos deux enfants qui étaient nés de notre union. Et on était séparés depuis plusieurs mois. Et 4 mois après mon voyage à Toronto, je me suis retrouvé un soir où j'allais à une soirée, et je savais le scénario, je savais ce qui arriverait, je savais qui était là, je savais qu'il y aurait l'alcool, je savais qu'il y aurait les joints, je savais qu'il y avait la cocaïne, je savais qu'il y avait les nanas, puis tout le scénario était décrit d'avance. Mais c'est plus ça que je voulais. J'en avais marre de ça. Ça m'intéressait plus. Et avant d'aller à cette soirée, je m'étais conditionné parce que je cherchais des solutions. Vous savez, quand tu as quelqu'un dans ton entourage qui vit des difficultés, qui a des problèmes, qui est dépendant de drogue, d'alcool, de médicaments ou autre, il cherche une solution. Alors, dis-y pas qu'il y a un problème, il sait. Offre-lui une solution. On a besoin d'une solution. Alors, moi, je cherchais une solution. J'ai lu des livres, « Réfléchissez, devenez riche, le pouvoir de votre subconscient », des livres de pensées positives qui m'ont fait du bien pour un petit temps, mais qui m'ont jamais libéré. Je cherchais une solution, je cherchais le bonheur, je cherchais à me libérer des choses dont j'étais devenu esclave, mais je les cherchais partout sauf auprès de Dieu. Parce que Dieu, je l'avais mis dans le fond du placard. Un Dieu comme ça, j'en voulais pas. Et je cherchais partout, sauf auprès de Dieu. Mais lui me cherchait. Et ce soir-là, quand je me suis Rendu à cette soirée, je m'étais conditionné avant en me disant par des paroles, par des pensées positives et des confessions positives que ce soir, c'est moi qui dominerais, que j'irais là et je prendrais pas de cocaïne. Et quand je me suis retrouvé aux petites heures du matin à mon appartement, j'avais encore le nez plein de poudre blanche parce que la cocaïne avait encore une fois remporté la victoire sur moi. Et là, je me revois dans la salle de bain et je me regarde dans le miroir et j'avais un tel dégoût de moi-même. Mais j'étais dans un tel désespoir. Mais je me disais, mais c'est ça la vie? Est-ce que je suis condamné pour le restant de mes jours à marcher, à vivre comme je vis là, à dépendre d'une ligne blanche pour me booster, puis refaire des choses, puis me créer un monde imaginaire, un monde virtuel, alors que je suis en instance de divorce, j'ai mis 2 enfants au monde, je m'étais juré de ne pas leur faire subir ce que mes parents m'avaient fait subir, et je fais pire avec eux. Je veux dire, pour moi, ma vie était un gâchis. Il n'y avait pas d'espoir pour moi. Et il est venu des pensées sombres dans ma tête. Mais il y a une petite phrase qui a traversé mon esprit cette nuit-là. Et c'était, Michel, quand t'en auras assez de mener ta vie tout seul, donne-la au Seigneur Jésus-Christ. Et ce soir-là, j'ai dit, j'en ai assez de vivre ma vie tout seul. Je me suis tourné vers Jésus et j'ai dit, si t'existes, c'est-tu vrai, c'est-tu pas vrai, c'est-tu des histoires? On m'a tellement raconté de balivernes, on m'a tellement présenté une religiosité qui m'attirait pas. C'est-tu vrai, ça? C'est-tu vrai? Est-ce que t'existes? Ben, si t'existes, moi j'ai besoin d'aide, viens dans ma vie. Puis j'ai dit, je te demande une chose. Libère-moi de la drogue. Parce que si t'es Dieu, t'es puissant. Si t'existes, prends ma vie, faisant ce que tu veux, et libère-moi de la drogue. Et je me suis endormi dans une paix que j'avais jamais connue. Et le lendemain matin, quand je me suis réveillé, il y avait une pensée dans mon cœur. Va voir ta femme et demande-lui pardon. Moi, aller demander pardon à ma femme, c'est toute de sa faute à elle si ça va pas. Il faut toujours un bouc émissaire. Moi, j'étais convaincu que tous mes problèmes, c'est la faute de ma femme. Eh bien, ce matin-là, il y avait dans mon cœur de quoi te changer, comme nous l'expliquait David tout à l'heure. Et j'ai fait cette démarche. Je me suis rendu à Québec et j'ai été voir mon épouse. Et en cours de route, savez-vous quoi? Des petites choses bizarres qui arrivent des fois. J'ai cherché une librairie. Je me suis dit, il faut que je lui achète une Bible. Ça va lui faire du bien à elle. J'avais, écoutez-moi bien, je ne sais vraiment pas comment ça. J'avais jamais lu la Bible de ma vie, parce que dans la religion où j'ai grandi, on nous défendait de lire la Bible. On disait que c'était dangereux de devenir fou. Seuls ceux qui l'avaient étudiée pouvaient la comprendre. Et plus tard, j'ai découvert le psaume 119, verset 130, qui dit « Ta parole est claire, elle donne de l'intelligence aux simples. » La parole de Dieu rend pas fou, elle donne de l'intelligence. Mais la parole de Dieu, j'ai jamais vu mon père ouvrir la Bible chez nous. Or, chaque famille québécoise qui se respectait avait sa grosse Bible illustrée dans la maison. J'ai jamais vu mes parents l'ouvrir. Moi, aujourd'hui, quand je donne une Bible à un nouveau, je dis la Bible, c'est comme un parachute. Pour que ça te sauve la vie, il faut que tu l'ouvres. C'est pas d'avoir une Bible chez vous qui va changer ta vie. C'est de l'ouvrir. Moi, on l'a jamais ouvert. Mais là, ce matin-là, dans la démarche de pardon que je vais faire auprès de mon épouse, il y a une pensée dans mon cœur que je dois lui acheter une Bible, que ça lui ferait du bien à elle. Et je suis arrivé chez moi, chez mon épouse, et je lui ai demandé pardon. J'ai reconnu mes torts. Et je lui ai dit, France, si tu me donnes une autre chance, avec Dieu dans notre vie, avec Jésus dans notre vie, on va pouvoir reconstruire notre couple. Puis là, j'ai donné la Bible. Alors, elle s'est dit, pour qu'il me demande pardon, qu'il me parle de Dieu, puis qu'il m'achète une Bible, il s'est passé de quoi certain, elle m'a cru, elle m'a pardonné, elle a abandonné les procédures de divorce, et on s'est réconciliés ensemble. Et là, ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Ça n'a pas été tout à fait de même. Mais la différence avec avant, c'est qu'à travers la Bible qu'on a ouvert et qu'on a commencé à lire. Mais comme disait David ce matin, quand j'ai commencé à la lire, je comprenais rien. Je comprenais pas ce qui était marqué là. Et un jour, mon épouse, deux de ses frères, eh bien, étaient devenus chrétiens. S'étaient convertis. Mais, selon leur famille, ils étaient dans une secte. Ben oui! Si t'es pas dans l'église traditionnelle, faut que tu sois dans une secte. Quand on comprend pas les choses, on met tout de suite une étiquette dessus, puis basta. Et donc, on arrive chez eux un dimanche, parce que là, on s'était établi à Montréal, et donc on venait un week-end en visite dans la famille, et on arrive à la maison alors que les deux frères de ma femme venaient de quitter la maison, et soudainement, mais les autres membres de la famille se sont mis à parler en mal contre eux, puis ils nous feront pas changer de religion, puis eux autres, puis leur Bible, puis leur secte, puis là, je dis, mec, qu'est-ce qui se passe là? Oh, André puis Stéphane, depuis qu'ils vont à cette église-là, depuis qu'ils sont dans leur secte, ils arrêtent pas de nous dire qu'on est perdu, qu'il faut qu'on naisse de nouveau, qu'il faut qu'on lise la Bible, il faut qu'on donne notre vie à Jésus, on en a marre de ça. Je dis, oh, attendez une minute. Hey, il y a des sectes, là, c'est dangereux. Ils sont peut-être dans une secte. Je vais y aller, moi. Je vais aller voir où ils sont. Puis je vais les sortir de là s'ils sont dans une place dangereuse. Parce que j'avais 10 ans plus vieux qu'eux, et ils m'appréciaient, ils avaient un certain respect envers moi, malgré tout ce que j'ai pu faire. Et donc, la semaine suivante, j'appelle André, qui était l'aîné des deux, puis j'ai dit, « Hey, ton affaire, là! » J'ai dit, « On aimerait venir voir ça, nous autres. » Il était tout heureux de ça, hein? Fait qu'il nous donne l'adresse, il nous dit que l'endroit où aller, puis c'est à 10 heures. Fait que t'arrives pas à 10 heures, hein? T'arrives un peu plus tard parce que tu veux, pour être prudent. Et là, on arrive là, puis qu'est-ce qu'on voit? Je dis, c'est pas une église. Il y avait pas de statue, il y avait pas de vitraux de couleur, il y avait pas d'hôtel en avant. C'est une salle comme ici. Alors, j'ai dit, c'est pas une église. Il y avait à peu près 500 personnes là-dedans. Les bras dans les airs. Ça louait le Seigneur. Puis à un moment donné, j'ai dit, pour moi, il doit y avoir des Hurons, des Algonquins, des Iroquois, parce que ça parlait dans des langues que je comprenais pas. Et là, ça avait les bras dans les airs, puis il avait de l'air à adorer Dieu. Il y avait un groupe de louanges comme ici ce matin. Et venez, c'est une gang de fous. J'ai dit, qu'est-ce qu'ils font là, les bras dans les airs à adorer Jésus? Que tu fasses ça dans un stade de foot, c'est normal. Je veux dire, quand tu vois des millionnaires courir après une petite peau de cochon gonflée et qui tapent dessus, que tu cries, ah, ça c'est normal. Mais pas pour Dieu. Hey, une église, faut que tu aies de l'air triste, puis il faut que tu sois recueilli, hein. Moi, j'avais été élevé dans l'église, il fallait se recueillir dans l'église, puis on était toujours, mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Ben, il est temps qu'elle coule, hein, parce que... Et là, je vois, il y avait un grand blond sur la tribune, qui était là, à tout bout de champ, qui disait, Alléluia! Alléluia! J'ai dit, pour moi, Samu va rentrer ici, ils vont le sortir, celle-là, parce que, vraiment, il y avait pas de l'air tout à fait trop normal. Alléluia! Puis maintenant, il se lève, c'était le pasteur de l'Assemblée. Un Américain qui essayait de parler français. Vous pensez, moi, j'ai un accent? Vous auriez dû l'écouter, lui. Et quand il s'est levé à la tribune, il a commencé à parler tout ce qu'il disait. Mais ça me percutait dans le cœur. Mais j'ai dit, pour moi, mes beaux-frères, ils sont allés, ils comptaient toute ma vie, lui, avant. Puis c'est un coup monté, parce que ça n'a pas d'allure ce qu'il dit là. Il dit toutes des affaires qui me concernaient. Et ça me touchait au cœur. Et à la fin, comme je vais le faire moi aussi ce matin, il a fait un appel pour ceux qui voulaient donner leur vie à Christ. Eh bien, moi aussi, comme David, spontanément, j'ai entendu, j'ai cru. Je me suis levé et je me suis avancé en avant. Et mon épouse m'a suivi. Et main dans la main, on s'est tenu devant ce pasteur et on a fait une prière où on s'est reconnu pécheur, où on a demandé vraiment pardon à Dieu pour nos péchés, puis on a accepté son pardon, puis on a demandé à Jésus de venir dans notre vie, de venir nous aider en tant qu'individu, en tant que couple. Et ça a été un jour extraordinaire. Et à la fin du culte, à la sortie, il y avait une petite librairie et pour la première fois de ma vie, je me suis acheté une Bible. 9 mai 1982. Je m'ai acheté une Bible pour moi. Alléluia. Et là, après, on est allé dans notre belle famille. Leur annoncer la bonne nouvelle. Et là, au lieu de deux fous, il y en avait quatre. Et là, ça a été vraiment quelque chose de particulier. Mais il y avait une telle joie dans mon cœur, une telle conviction que Jésus-Christ était le Fils de Dieu. C'est une révélation. Et là, j'ai compris que Jésus me cherchait. Il n'y a pas une personne que vous êtes ici par hasard ce matin. C'est Dieu qui nous cherche. Dieu veut se révéler à nous. Il veut nous donner la véritable image de qui il est. Peut-être pas l'image que tu as eue dans l'enfance, comme moi j'avais eue. J'ai découvert que Dieu, c'est pas un père fouettard. Que Dieu, il n'est pas là en train de me punir puis de m'envoyer en enfer. Dieu veut pas que je périsse. Et la preuve de ça, il m'a tellement aimé qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque, moi, David, toi, si on croit en lui, on périra pas, mais on a la vie éternelle. Et Jean 3, 17 nous dit, car Jésus n'est pas venu dans le monde pour que le monde soit jugé par lui, mais pour que le monde soit sauvé. Vous savez, pendant 32 ans de ma vie, j'étais un homme public, j'étais un homme impliqué dans le milieu des affaires, j'étais un sportif, j'étais engagé comme dans différents mouvements. Du monde, j'en côtoyais à la longueur de journée. Il m'aura fallu 32 ans pour qu'un homme m'offre une solution à mon problème. Il m'a pas prêché de Genèse à Apocalypse. Hey, quand t'en auras assez de l'amener ta vie tout seul, donne-la au Seigneur Jésus-Christ. C'est tout ce qu'il m'a dit. Et un an et demi après, je me suis retrouvé dans une église évangélique et Jésus-Christ se révélait à moi. Je l'avais invoqué 4 mois après ma rencontre avec cet homme de Toronto. Et savez-vous quoi? J'ai oublié de vous le dire tout à l'heure. Mais le soir où j'ai crié à Jésus, si t'existes, prends ma vie et délivre-moi de la drogue, c'est la dernière fois de ma vie que j'ai consommé de la drogue. Attendez une minute, dans mes notes, c'était marqué. C'est pas moi que vous applaudissez. C'est celui qui m'a libéré. Le psaume 34, verset 7 dit, quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend et le délivre de toutes ses détresses. Et vous savez, la différence entre toutes les religions du monde et le christianisme, les religions du monde, c'est l'effort de l'homme pour atteindre Dieu. On voit des gens aujourd'hui qui sont là. Oum! Tu dis, qu'est-ce que tu fais là? Oh, j'essaie d'atteindre Dieu. Oum! On essaie d'atteindre Dieu par des dogmes, par des rites, par des traditions, par des mantras, par des tout ce que tu voudras. En se conformant à des sacrements, à des ceci, à des cela. Ça, ce sont les religions du monde. L'homme qui essaie d'atteindre Dieu. Le christianisme, c'est Dieu qui vient à toi. C'est Dieu qui vient dans ton trou. C'est Dieu qui vient dans ta souffrance, dans ta misère, dans ta difficulté. Le jour où tu l'invoques, il vient là, il enlève tes vêtements souillés, il te met une robe blanche, il met un anneau à tes doigts, des sandales à tes pieds, puis il fait tuer le veau gras parce qu'il dit, voici mon fils qui était mort et revenu à la vie. Alléluia! C'est ça, le christianisme. C'est pas une religion qu'on veut partager avec vous. C'est une personne qui se révèle à nous quand on l'invoque. La seule chose qui puisse empêcher Dieu de se révéler à toi, c'est ta volonté. Dieu n'entre pas de force dans la vie des gens. Dieu nous dit dans sa parole, voici, je me tiens à la porte de ton cœur et je frappe. Si tu entends et tu ouvres, j'entrerai chez toi. Je ferai ma demeure en toi, je souperai avec toi, je serai en communion avec toi, je vais me révéler à toi, je vais répondre à tes questions, je vais te donner un sens à ta vie. Et cette porte-là de notre cœur ne s'ouvre que de l'intérieur. Lui, il se tient à la porte et il frappe. Et par la suite, j'ai vu, comme David le disait, combien de circonstances de ma vie où Dieu avait frappé à la porte de mon cœur, mais je ne l'avais pas entendu. Mais lui, par amour, par patience, parce qu'il me cherchait, parce que j'avais du prix à ses yeux. Oh, j'avais pas de valeur aux yeux du monde. Le monde peut ne rien avoir à cirer de toi. Tu peux être quelqu'un qui est insignifiant pour le monde, qui n'a pas de valeur aux yeux du monde. Peut-être que tu as eu un mauvais départ dans la vie. J'aimerais dire que c'est pas le départ qui compte, c'est l'arrivée. Avec Jésus-Christ, tu peux reprendre un nouveau départ. J'étais sans espoir. Ma vie était un gâchis. Dépôt de bilan, dépendance à la cocaïne, instance de divorce. Le divorce n'a pas eu lieu. 31 ans de mariage aujourd'hui. Mais pas juste 31 ans de mariage. j'aime plus ma femme aujourd'hui que 31 ans passés. Parce que Dieu a changé mon cœur de pierre en cœur de chair. Dieu a guéri des traditions, des raisonnements, des blocages qui m'empêchaient d'exprimer l'amour et de l'accueillir alors que j'en voulais tant. Dieu a guéri, Dieu a fait son œuvre. Il l'a fait graduellement, jour après jour. Notre famille est unie aujourd'hui alors qu'on était éclatés. J'ai pu consommer aucune drogue depuis ce soir de novembre 1980 où j'ai crié à Jésus-Christ. C'est important que vous entendiez qu'il y a un Dieu vivant aujourd'hui, mais non seulement un Dieu qui est vivant, mais qui agit encore aujourd'hui pour ceux qui l'invoquent. C'est important d'entendre ça. À travers toutes les mauvaises nouvelles qu'on entend partout, il y a une bonne nouvelle. Christ est vivant. Il a le pouvoir de guérir, de libérer, de délivrer, de transformer nos vies. Et c'est ce qu'il a commencé à faire avec ma vie. À un point tel que, quand j'ai découvert l'Évangile, c'est devenu tellement précieux pour moi. J'ai découvert que ce livre contenait, c'est un peu comme le guide du routard. Si tu suis les instructions qui sont dedans, tu es sûr que tu vas arriver à destination. Tout pour ton bonheur est inscrit là-dedans. Tout pour ta paix, tout pour ta joie, tout pour ton avenir. J'avais pas d'avenir. Eh bien, Dieu m'a donné un avenir. J'avais pas d'espérance, Dieu m'a donné une espérance. Je savais même pas qui j'étais, d'où je venais, où j'allais. On m'avait enseigné que je venais du singe. Pas très revalorisant quand tu penses que ton ancêtre, c'était Cheetah. Tu essaies de te créer une identité, puis on te dit que t'es le fruit du hasard. Un jour, il y a eu un bing-bang, puis tout s'est mis en place, puis toi, t'es né par accident. Merci pour mon image. Mais c'est ce qu'on enseigne aujourd'hui. C'est ce qu'on dit aux jeunes, qui sont le fruit du hasard, qui sont le fruit de l'évolution, puis que leurs ancêtres, c'était Cheetah. Non, la Bible a dit que j'ai été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Mon image n'est plus la même. Mon estime de moi n'est pas la même qu'elle était. Aujourd'hui, je sais d'où je viens, je sais qui je suis, puis je sais où je m'en vais. Alléluia. Et la Bible m'a donné toutes ces réponses-là. Et donc, je suis devenu amoureux de la Bible. Et la parole de Dieu, j'ai commencé non seulement à la lire, mais à la mettre en pratique. J'étais homme d'affaires. Un des premiers versets que j'ai lus, qui m'ont été donnés après ma conversion, c'était Josué 1:8. Ça dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Moi, je ne me suis pas parti en affaires pour échouer. Je me suis parti en affaires pour réussir. Et là, on me donnait la recette de la réussite. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ma bouche. Que je le médite nuit et jour et que j'agisse selon ce qui est écrit. Et ça me donnerait du succès. Ça me ferait réussir. Alors, j'ai dit à Dieu, je vais te mettre au défi. Je t'avertis, je vais lire ta Bible, je vais faire ce qui est marqué dedans, puis si ça marche pas, je vais le dire à tout le monde. Puis si ça marche, je vais le dire à tout le monde aussi. T'as intérêt à ce que ça marche. Et j'ai commencé à mettre en pratique. Et ça fait 21 ans que je dis à tout le monde que ça marche. Ça fait 21 ans que je dis à tout le monde que la Bible, c'est vraiment la parole de Dieu. Ça fait 21 ans que je dis aux gens que Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter. Ça fait 21 ans que je dis aux gens que si tu mets en pratique les principes qui sont enseignés dans ce livre, tu réussiras. Tu auras le bonheur, tu auras la paix, tu auras la joie à travers les difficultés. Même en plein cœur d'épreuves, en plein cœur de difficultés, tu auras une paix qui surpasse toute intelligence parce que tu sauras que ton Dieu est avec toi et que ton Dieu est le plus grand, il est le plus fort, il est le plus puissant. Il m'a délivré de 18 ans de consommation de drogue. Et en 1990, eh bien, pour moi, le monde n'avait plus d'intérêt. J'avais un désir de partager l'Évangile. Et je n'ai parlé avec mon épouse. Elle était d'accord, je vous épargne beaucoup de détails parce que tu n'arrives pas comme ça un jour à te lever et à dire « je deviens évangéliste ». Il y avait un appel sur ma vie qui m'a été donné le 9 mai 1982, la première fois que je suis rentré dans une église évangélique et que je me suis avancé en avant pour donner mon cœur à Jésus publiquement. Dieu m'a dit, je t'appelle. Mais il y a le moment où Dieu t'appelle, après il y a la formation, puis il y a le temps où Dieu dit, vas-y, c'est maintenant le temps. Et il m'a fallu 8 ans de formation, 8 ans de brisement parce que le couple allait mal. On avait beaucoup de difficultés de couple. À l'extérieur, moi, ça allait bien. Avec moi-même, j'ai jamais eu trop de difficultés. Aimez-vous les uns les autres. Avec les uns, ça va. C'est avec les autres, j'avais de la misère, moi. Surtout ma femme. Et à chaque fois, je voulais aller dans le ministère, Dieu disait, ton couple.
Oui, mais c'est bien.
Ton couple. Ta famille. Mets de l'ordre dans ta maison. Après, je t'enverrai.
Ouais, mais Seigneur, c'est dur. Ailleurs, c'est plus facile.
C'est pour ça que je te renvoie à la maison. Je t'enverrai pas ailleurs si tu règles pas ça d'abord. Et Dieu me ramenait toujours dans mon couple. Et là, j'ai vécu de la mort à moi-même. J'ai vécu des brisements. J'ai vu que j'étais pas si parfait que ça parce que je me pensais pas si pire. J'ai vu que c'est pas elle qui avait toutes les torts. J'ai vu que je pouvais jamais la changer, elle. Que je pouvais me changer, moi. Et j'ai combien de temps encore? Juste pour... 5-10 minutes, c'est bon. Parce que je veux vous partager ça, parce que je sens, même si je l'ai partagé hier midi au repas, il y en a plusieurs que ça va vous concerner, parce que on avait beaucoup de difficultés de couple. Et je priais pour que Dieu change ma femme. Je sais qu'il n'y en a pas ici que vous pensez comme ça, là, mais moi, je priais que Dieu change ma femme. Et un week-end, je partais pour un rassemblement avec les hommes d'affaires du premier évangile, et on n'était que les hommes. Tu veux réveiller le monsieur à côté de toi, s'il te plaît? Bonjour, David, ça va? Ça va bien? Excuse-moi si je te réveille comme ça, hein? C'est parce que ce que je vais dire est important. J'étais dans une conférence comme ça, puis il y a un monsieur qui dormait pendant la réunion, fait que je dis à son voisin, tu veux réveiller le monsieur? Il dit, viens le réveiller, c'est toi qui l'as endormi. Alors, j'espère que c'est pas le cas matin, mais je voulais te réveiller, David, je me suis permis parce que je vais dire de quoi d'important. Donc, je partais pour ce week-end-là, et vraiment, j'étais au bord de la séparation. Ça faisait quelques années qu'on était chrétiens, ça faisait 4 ans, mais malgré ça, on parvenait pas à créer l'unité dans notre couple. Il y avait vraiment toujours des conflits, puis etc. Et ce week-end-là, quand je suis parti, j'ai dit à Dieu, ça fait des années que je te prie pour que tu changes ma femme, mais pas changé. Là, je m'en vais ce week-end-là, puis quand je reviens dimanche, si tu n'as pas fait un miracle, moi, je me sépare. Je continue plus comme ça. Puis j'ai dit à Dieu, je t'avertis, j'en parlerai pas à personne là-bas. C'est entre toi puis moi. Tu sais c'est quoi le défi? Change ma femme. Alors, je m'en vais ce week-end-là. Et la personne avec qui je partage la chambre pendant le week-end, on n'a pas eu l'occasion de se voir à cause de toutes les activités qu'il y avait, sauf le dimanche matin. Et dimanche matin, on se retrouve à la salle de bain en même temps où chacun, on se fait la barbe, tout ça. Et pendant que je suis en train de me faire la barbe, mon voisin de chambre, il me dit, Dieu a quand même donné un rôle ingrat à la femme, hein? Oh, ouais. Il dit, tu vois, il dit ta femme, il dit, c'est comme une meule. Vous connaissez ça, une meule? Pour moudre le grain. Vous connaissez ça, une meule? Dites-moi si vous... Oui? Il dit, ta femme est comme une meule, a grinding wheel, dont Dieu se sert pour te polir. Puis il dit, plus que la meule est grosse, c'est que le morceau à polir est dur. Oh! J'ai dit, c'est pas ça que je voulais entendre, moi! Moi, j'aurais voulu qu'il me dise, pauvre Michel, hein, oh, si tu étais marié avec une autre femme qui te comprenait mieux, tu serais plus heureux. C'est pas drôle d'être marié avec la femme que toi. Non! Il me dit que ma femme est une meule dont Dieu se sert pour me polir parce qu'il veut faire de moi un vase d'honneur. Et là, quand je suis retourné dans la réunion plénière, ça m'a frappé. Et là, j'ai demandé pardon à Dieu d'avoir demandé qu'il change ma femme. J'ai dit, change-le plus, change-moi. Mais là, j'ai dit, Seigneur, je vais commencer à bénir ma femme. Parce que je ne la bénissais pas tout le temps, mon épouse. Et là, j'ai dit, Seigneur, je vais commencer à la bénir. Et là, j'ai commencé à bénir mon épouse. Et là, j'ai dit à Dieu, OK, je t'autorise. Fais ce que tu as à faire. Tu veux faire de moi un vase d'honneur, je vais être un vase d'honneur. Brise-moi, change-moi. Il y a ce chant qu'on chante hein, qui dit, je suis l'argile, toi le potier. Rends-moi docile, ton prisonnier. Mais je dis, Seigneur, je suis l'argile. C'est pas l'argile à dire au potier quoi faire. J'accepte. Et là, quand je suis revenu à la maison du dimanche soir, mon épouse a dit, pis ton week-end? Ouais, j'ai déjà appris que t'étais une meule. Ah bon? J'ai dit, j'ai appris que t'étais une meule dont Dieu se servait pour me polir. Alors j'ai dit, je suis d'accord que tu meules, mais frotte pas toujours à même place, tu vas faire un trou. Puis j'ai dit, si de temps en temps, tu pouvais mettre un petit peu d'huile, mais semble que ça écorcherait moins un peu, s'il vous plaît. Hein? Alors, mesdames, riez pas trop fort, parce que vos maris sont aussi des meules dont Dieu se sert pour vous polir. Alléluia! Et donc, à travers cette petite expérience que j'ai vécue au cours de ce week-end, j'ai appris que toutes les circonstances de ma vie, les personnes autour de moi, j'ai pas le choix des circonstances. mais j'ai toujours le choix de l'attitude que je choisis d'avoir face aux circonstances. Et d'apprendre que derrière toutes les circonstances de ma vie, et derrière toutes les personnes qui sont dans ma vie, il y a la main de Dieu, parce que je lui ai donné ma vie. Il y a la main de Dieu qui est là pour faire une œuvre dans ma vie. Je me rappelle au début de ma conversion, quelqu'un, moi qui avais eu tellement besoin d'amour, il y a quelqu'un, à chaque fois que j'arrivais à l'église, il venait vers moi, puis il me serrait dans ses bras. Je me sentais, tu sais, un peu comme David l'expliquait aujourd'hui, t'es pas habitué qu'un homme te serre dans ses bras trop, tu sais. Encore moins qu'il t'embrasse. Première fois, je suis arrivé en France, puis qu'il m'a donné un bec. Et là, lui, à chaque fois que j'arrivais à l'église, il me serrait dans ses bras, puis c'était un gros nounours, un peu comme Jean-Philippe. J'aime beaucoup Jean-Philippe, il est pas là, mais il est grand, gros, puis il te prend dans les bras comme ça, puis il me disait, Michel, Dieu t'aime tel que t'es. Il disait, merci. Chaque fois que j'arrivais à l'église, Michel, Dieu t'aime tel que t'es. Ah, merci, ça. Non, mais ça me faisait du bien. Ça me faisait du bien de savoir que Dieu m'aimait tel que j'étais. Parce que les gens t'aiment pas tel que t'es. Les gens nous aiment à condition que, quand on rencontre leurs critères, là, ils nous aiment. Mais quand on déroge de leurs critères, ils nous aiment moins. Mais là, Dieu, lui, il m'aimait tel que j'étais. Et après quelques mois de ce traitement, eh ben, je commençais à bien me sentir dans ses bras et je commençais à vraiment sentir ben cet amour inconditionnel de Dieu pour moi. Puis un jour, j'arrive à l'église et comme à son habitude, il vient vers moi, il me prend dans ses grands bras, puis il me serre, puis il dit, Michel, Dieu t'aime tel que tu es. Je dis, ouais, je le sais maintenant. Il dit, tu le sais vraiment? J'ai dit, oui. Il dit, maintenant que tu le sais. Il dit, Dieu t'aime tel que tu es, mais il t'aime trop pour te laisser tel que tu es. Il voudrait changer quelques petites choses. Est-ce que tu l'autorises? Ah, ben, j'ai dit, s'il le fait avec amour, j'ai dit, oui, vas-y, Seigneur, mais doucement, hein, je veux dire, et c'est ça. Dieu nous aime tel que nous sommes, mais il nous aime trop pour nous laisser tel que nous sommes. Et c'est la raison pour laquelle Dieu fait une œuvre en nous. Et c'est la raison pour laquelle Dieu a créé la femme. Y a-t-il quelqu'un mieux que ton conjoint pour aller te toucher où ça fait mal, où t'es faible? Et si c'est passé avec la femme, il y a les enfants. Et si c'est passé avec les enfants, il y a les frères et sœurs papier de verre dans l'assemblée qui te frottent, qui viennent toucher à des places que tu n'es pas si sanctifié que ça. Et c'est un processus. C'est une marche extraordinaire. Et aujourd'hui, parce que j'aurais tellement d'autres choses à dire, mais on ne peut pas raconter toute une vie, je veux terminer. Mais sachez qu'en 90, d'un commun accord avec mon épouse, on a tout quitté, carrière, profession. Dieu, en mettant ses principes en application, m'a fait prospérer à un niveau que jamais mes talents naturels ne m'avaient permis d'atteindre. Dans le Proverbe 10-22, il est écrit, « C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. » J'ai mis les principes de la parole de Dieu en application. J'ai commencé à gérer mes affaires de façon honnête, intègre, rendre à César ce qui était à César, rendre à Dieu ce qui était à Dieu, à payer ma dîme, à donner des offrandes. J'ai semé abondamment, j'ai moissonné abondamment. La parole de Dieu, elle est vraie. Et en pleine prospérité, en pleine réussite financière, alors que j'étais copropriétaire d'une des plus grosses sociétés d'informatique au Québec, Dieu me dit maintenant, tu lâches tout ce que tu as et tu me suis. C'est le temps d'aller dans le ministère. Et sans aucune réticence, parce que c'était le désir de mon cœur. C'est ce à quoi j'aspirais. C'est ce qui était le plus grand désir dans mon cœur, c'est de servir Christ. Et comme Paul dit, j'ai regardé comme de la boue tous les diplômes, les titres, la prospérité, les choses, comparé à l'excellence de Christ, de le connaître, de le servir. Et d'un commun accord, on a quitté carrière, profession, on a fondé le ministère Plus que vainqueur, qui est selon Romains 8, 37, qui dit que dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par Jésus-Christ, par celui qui nous a aimés. Et on a commencé, bon, comme je disais, j'ai commencé à enseigner la vente et le marketing selon les principes bibliques. Après, en 92, j'ai écrit un séminaire qui est devenu un livre qui est vendu à plus de 20 000 copies aujourd'hui qui s'appelle « Le combat spirituel ». Dernièrement, il y a un autre livre que Dieu m'a amené à écrire qui s'appelle « Renversons les forteresses ». Et comme ça, Dieu a ajouté graduellement dans notre ministère, à travers des épreuves, à travers des difficultés, à travers du brisement. Mais dans chaque situation, on a vu la main de Dieu. Dans chaque situation, on a vu la fidélité de Dieu. On a traversé des déserts, on a vécu des épreuves, on a été ébranlé encore dans notre couple. Il a fallu renouveler notre engagement, il a fallu nous engager à fond dans le combat spirituel pour pas laisser l'ennemi diviser notre couple, diviser notre famille. Et aujourd'hui, depuis 5 ans, comme je vous disais, eh bien, on a cette maison de guérison pour les cœurs brisés dans la banlieue de Dijon, où vraiment on voit Dieu en action, on voit Dieu à l'œuvre. Il y aurait tellement d'autres choses à vous dire, mais je vais arrêter maintenant. Je vais arrêter et tenir la promesse que je vous ai faite aussi à travers mon témoignage, vous disant que je vous donnerai l'opportunité à la fin du témoignage pour ceux et celles qui le désirent de pouvoir répondre aussi à l'appel de Dieu. Vous n'êtes pas là par hasard. Dieu vous a attiré dans ce lieu ce matin pour qu'il puisse se révéler à vous. Et je vous demanderai, en terminant, si vous voulez m'accorder 2 minutes. Et ces 2 minutes, je vous demande simplement de fermer vos yeux. Oubliez qui vous a invité. Oubliez la personne à votre gauche, la personne à votre droite. La Bible nous raconte l'histoire d'un homme qu'on appelle le fils prodigue. Et ce fils prodigue avait fait un jour ce que j'ai fait, a pris son héritage, puis a dit « Maintenant, je veux vivre ma vie à ma façon ». Et il s'est en allé et il a vécu sa vie à sa façon. Mais sa façon de vivre sa vie l'a emmené un jour à un tel niveau qu'il en était à partager la nourriture des pourceaux. Et cet homme-là aurait pu choisir le suicide, comme trop de jeunes le font aujourd'hui, alors que la France détient le record mondial du plus haut taux de suicide chez les 29 ans et moins. Je ne sais pas si vous saviez ça, mais c'est triste d'apprendre une nouvelle comme ça dans un pays d'abondance comme la France. Moi, je ne te connais pas, mais Dieu te connaît. Attends pas d'être rendu à partager la nourriture des pourceaux pour te rappeler que tu as un Père qui t'aime. Et Dieu n'est pas le Dieu que j'avais compris dans mon enfance. Il n'est pas un Père fouettard. Il est un Dieu qui a tant aimé qu'il a donné. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de la Bible est un Dieu qui vient donner, pas un Dieu qui vient prendre. Un Dieu qui vient se révéler à toi. Un Dieu qui, dans ta condition, vient vers toi. Il n'attend pas que tu changes les choses. Il n'attend qu'une seule chose, que tu l'invoques. Et ce fils prodigue s'est rappelé comment son père traitait ses serviteurs et il s'est dit « Je vais retourner vers mon père ». Et je vais lui dire, Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Veux-tu me donner un travail de serviteur dans ta maison? Et Dieu t'a attiré dans ce lieu ici aujourd'hui parce qu'il veut se révéler à toi. Il veut que tu reviennes à la maison. Alors, je te demande si tu veux juste fermer tes yeux. 2 minutes. Ose être vrai avec toi. C'est le moment peut-être le plus important de toute ta vie aujourd'hui. Si tu n'es pas né de nouveau, si tu ne sais même pas ce qu'être né de nouveau veut dire, c'est que tu ne l'es pas. Christ t'invite aujourd'hui alors qu'il se tient à la porte de ton cœur et qu'il frappe. Si tu l'entends ce matin et que tu veux ouvrir, il va entrer. Si tu veux ouvrir ton cœur ce matin pour l'inviter, veux-tu simplement lever ta main pour faire un signe? Simplement lever ta main pour dire, je veux ouvrir mon cœur ce matin pour inviter Jésus à venir. J'ai vu ta main, monsieur, tu peux la rebaisser. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre ce matin? C'est entre Dieu et toi. J'ai vu ta main en arrière, tu peux la rebaisser. Est-ce que c'est entre Dieu et toi? Ne remets pas à demain, parce que demain, tu ne sais pas si tu seras là. La parole de Dieu nous dit, c'est aujourd'hui le jour du salut. N'endurcis pas ton cœur. On t'invite pas à te joindre à une religion, à une dénomination, à une église. On t'invite à être réconcilié avec ton Dieu. La parole de Dieu nous dit que tous ont péché et sont séparés de Dieu. Si tu es dans ce lieu aujourd'hui et tu as déjà péché, le seul détergent dans l'univers qui peut effacer ton péché, c'est le sang de Christ versé à la croix du calvaire. Et ce sang-là a coulé pour toi, pour te réconcilier à lui, pour que tu puisses trouver en lui le pardon de tes péchés et devenir enfant de Dieu. Alors, si tu es dans ce lieu ce matin et tu n'as pas l'assurance de ton salut éternel, si tu n'as pas l'assurance d'avoir été pardonné pour tes péchés, et tu veux inviter Jésus dans ton cœur, fais seulement lever la main là où tu es. Lève ta main pour indiquer à Dieu que tu es prêt à lui ouvrir ton cœur, à l'inviter dans ta vie, à le laisser venir faire sa demeure en toi pour qu'il puisse répondre à tes questions, qu'il puisse se révéler à toi, qu'il puisse te dire qui il est. J'ai vu votre main, madame, vous pouvez la rebaisser. Je ne vais pas insister outre mesure, mais je sens qu'il y a des personnes, vous avez un combat dans votre tête. C'est comme si, à quelque part, vous voudriez lever votre main, mais vous êtes en train de raisonner, puis vous avez la crainte de ce que les gens peuvent penser autour de vous. Moi, je vous dis, laisse ces choses-là de côté. C'est un rendez-vous divin aujourd'hui. Dieu qui a créé l'univers par sa parole, Dieu qui t'a créé, tu n'es pas un accident, tu n'es pas le fruit du hasard. Dieu qui t'a tellement aimé, qui t'a donné son Fils unique pour que tu puisses être sauvé, t'offre aujourd'hui d'être réconcilié à lui. Tout ce que tu as à faire, c'est lever ta main. Merci, madame. Tout ce que tu as à faire, c'est de lever ta main pour dire, Seigneur, je veux me réconcilier à toi. C'est tout ce que tu as à faire. Alléluia. Merci. Merci. Amen. Je veux simplement prier pour les personnes qui ont levé. Voulez-vous vous lever à votre place, ceux qui avaient levé la main? J'aimerais simplement faire une prière avec vous. Je ne veux pas vous mettre dans l'embarras, mais Jésus n'a pas eu honte de se lever publiquement, d'être pendu au bois par amour pour nous. J'invite toutes les personnes qui avaient levé votre main juste à vous lever à votre place. J'aimerais simplement vous demander de venir en avant que je puisse faire une prière avec vous. Voulez-vous juste vous avancer ici vers moi? J'aimerais simplement faire une prière avec vous. Approchez-vous. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Merci Jésus. Vous savez, le 9 mai 1982, j'ai fait ce que vous faites ce matin. Je me suis avancé avec mon épouse. On est en instance de divorce. Je vous l'ai dit tout à l'heure, je n'avais pas d'avenir, je n'avais pas d'espoir pour ma vie. Mais ce matin-là, j'ai été touché comme vous l'êtes et je me suis simplement avancé. J'ai fait une prière comme celle que je vais vous demander de faire. Et ce qui s'est passé par la suite est tellement extraordinaire. Et ce que Dieu a fait pour moi, il va le faire pour vous. Regardez-moi un instant. Ce que Dieu a fait pour moi, il va le faire pour vous. Ce que Dieu a fait pour mon couple, il veut le faire pour ton couple. Il veut le faire. C'est pour ça qu'il vous a attiré ici aujourd'hui. Ce que Dieu a fait pour moi, il va le faire pour vous autres. C'est ça qu'il y a d'extraordinaire. Alors, je vous invite juste, et vous comme assemblée, vous qui avez déjà fait ce pas-là, amen, voulez-vous en solidarité avec eux, vous allez répéter la prière pour leur dire, hey, on est tellement heureux que vous soyez là ce matin. On est tellement heureux que vous ayez répondu à l'appel, que vous soyez avancés. On veut vous dire qu'on est là, on est solidaires avec vous. On a passé là un jour. On sait que ce que Michel et David vous ont dit ce matin, c'est vrai parce que tellement de gens pourraient se lever ici aujourd'hui et le témoigner. Alors, voulez-vous, on se lève avec eux pour dire qu'ils ne se sentent pas tout seuls en avant, debout. Hein? Et si vous êtes d'accord avec ce que je dis, vous le répétez. Mais vous le répétez pas comme on répète, mais comme votre déclaration. C'est vos paroles à vous. Vous voulez vous approcher un petit peu plus? Amen. Alors, simplement, dites avec moi. Dites, Seigneur mon Dieu, je me tiens devant toi aujourd'hui pour te demander sincèrement pardon. Pardon pour tous mes péchés. Pardon d'avoir vécu ma vie à ma façon. Mais aujourd'hui, de mon plein gré, par un acte de ma volonté, je t'ouvre la porte de mon cœur et je t'invite, Jésus, viens y faire ta demeure. Jésus, j'ai besoin de toi. Prends ma vie telle qu'elle est, faisant ce que tu veux. Et je confesse publiquement aujourd'hui que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, qu'il est mort à la croix pour me sauver, pour me pardonner, pour me laver de tous mes péchés. Je suis donc pardonné. Je suis sauvé. Je suis maintenant enfant de Dieu. Et toi, diable, je vais te dire ce matin, c'est terminé. Je change de camp. Je marcherai plus avec toi. Tu es un menteur. Tu m'as promis le bonheur, mais tu es venu me voler. Tu es venu pour me détruire. Et aujourd'hui, je change de camp. Je marche avec Jésus. Je donne ma vie à Jésus. J'invite Jésus à venir avec moi. Et je veux le suivre tous les jours de ma vie. Jusque dans l'éternité. C'est ma décision aujourd'hui. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Les gens applaudissent parce qu'ils ont tellement de joie dans leur cœur du pas que vous avez fait aujourd'hui, parce qu'ils l'ont fait un jour, puis ils savent ce que ça a produit dans leur vie, puis ils savent ce que ça va produire dans la vôtre. Quand, comment, ça c'est Dieu qui le fait. Mais ils savent que Dieu a entendu. Le plus difficile pour nous, pauvres petits humains, à croire, c'est de penser que juste le fait de s'avancer comme ça, puis de faire une prière, que tout est réglé. Nos péchés sont pardonnés, puis ça y est, maintenant, eh bien, si on mourait, on irait au ciel. Je vais vous raconter une histoire. Je termine avec ça. 2000 ans passés, ce Jésus que vous venez d'invoquer était crucifié sur une croix. Puis il y avait à ses côtés deux brigands. Et toute l'humanité est représentée à travers ces deux brigands. Un des brigands injuriait Jésus puis se moquait de lui comme la foule. Mais l'autre brigand a dit à son compagnon, « Tais-toi, ce que nous on reçoit, on le mérite. On est des brigands, on mérite d'être crucifiés. » Mais lui, il n'a rien fait de mal. Et il s'est tourné vers Jésus, puis il a juste dit à Jésus, « Jésus, je crois que tu es le Fils de Dieu. Souviens-toi de moi quand tu seras dans ton paradis. » Qu'est-ce que Jésus a répondu? « Aujourd'hui même, tu seras avec moi. » Est-ce que ce brigand a eu le temps de descendre de la croix, d'aller mettre sa vie en règle, de faire des bonnes œuvres pour se mériter le ciel? Non, il est mort quelques heures après. Et pourtant, Jésus lui a dit, « Aujourd'hui, tu seras avec moi. » Et je termine avec ce verset. Ça s'adresse à vous. Et savez-vous comment ça commence? « Bien-aimé. » Peut-être ça fait longtemps que personne vous a dit « Bien-aimé. » Mais Dieu, quand il te regarde aujourd'hui, ma sœur, il te dit « Bien-aimé. » Je t'ai écrit ces choses pour que tu saches que tu as la vie éternelle, toi qui crois au nom du Fils de Dieu. Est-ce que vous croyez que Jésus-Christ est le Fils de Dieu? Tu le crois? Tu le crois? Tu le crois? Parce que tu le crois, je vous ai écrit ces choses pour que vous sachiez, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu, que vous avez la vie éternelle. Pas vous aurez, vous avez. Le salut est un don gratuit qui s'acquiert uniquement par la foi. Comme David a dit, j'ai entendu, j'ai cru. Et à partir de là, Dieu s'est manifesté dans sa vie. J'ai entendu, j'ai cru, Dieu s'est manifesté dans ma vie. Vous avez entendu, vous avez cru, Dieu se manifeste dans votre vie. Alléluia. Seigneur, nous voulons prier maintenant. Voulez-vous tendre vos mains vers toutes les personnes qui sont là? Seigneur, nous voulons prier pour chaque personne qui se tient debout devant toi aujourd'hui. Nous, moi je les connais pas, Seigneur. Mais toi, tu les connais. Ta parole nous dit que lorsqu'ils n'étaient qu'une masse informe dans le sein de leur mère, tu les connaissais. Et tu avais formé sur eux des projets de paix et non de malheur pour leur donner un avenir et de l'espérance. Seigneur, puisses-tu les conduire maintenant dans ces projets de paix afin qu'ils aient un avenir et qu'ils aient de l'espérance. Je prie afin que ton Saint-Esprit vienne sur eux, parce que on a besoin de la révélation du Saint-Esprit pour connaître ta parole, pour marcher avec toi. Puisses-tu, notre Dieu, envoyer ton Saint-Esprit sur chacune de ces personnes maintenant et les attirer à toi. Merci, éternel Dieu, pour tout ce que tu vas faire dans leur vie. Merci que tu leur donnes espoir aujourd'hui, à travers les témoignages qu'ils ont entendus, que leur vie ne sera plus la même, parce qu'ils t'ont ouvert leur cœur, parce qu'ils t'ont invité à y entrer, tu as entendu, tu as répondu à leur invitation, et tu habites maintenant en eux, et c'est toi qui vas faire l'œuvre pour laquelle tu as été envoyé. C'est notre prière au nom de Jésus-Christ. Amen.